Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima, Aouta.
Frères et sœurs, un jour, frères et sœurs, toujours, c'est le thème du forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais qui s'ouvre ce mardi à Lubumbashi. Organisée par l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi, cette rencontre sonne l'heure de la réconciliation. Et puis, la proposition de révision du code pénal en matière de lutte contre la corruption traîne toujours dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. Une situation que déplore le président de l'association du réseau parlementaire africain contre la corruption. Passy Zapamba plaide pour l'examen et l'adoption rapide de ces textes. Enfin, nous sommes le 17 mai. Il y a 25 ans que Laurent Désiré Kabila avec l'AFDEL renversait le pouvoir du maréchal Mobutu. Cette journée est désormais consacrée aux forces armées. Dans ce journal, nous recevons le professeur Néhémie Moulania qui nous parlera de son ouvrage « La République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, devoir de mémoire ». Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Coup d'envoi ce mardi à Lubumbashi du Forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais, organisé par l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi. Placé sous le thème « Frères et sœurs un jour, frères et sœurs toujours », cette rencontre rassemble plusieurs catégories de personnes, parmi lesquelles les acteurs politiques, les membres de la société civile, les chefs coutumiers, les scientifiques, les jeunes et autres. Les organisateurs mettent la dernière main sur les préparatifs pour que cette première rencontre du genre soit un succès. Jean Gandou.
Prévu au départ pour 70 participants, finalement, le centre pastoral Monseigneur Jean-Pierre Tafunga de l'archevêché de Lubumbashi en accueillera près de 250. Parmi ceux qui ont déjà foulé le sol Lushua en provenance de Kinshasa et d'autres provinces du Grand Katanga, il y a des sénateurs, des députés nationaux, des ministres honoraires et en exercice, ainsi que d'autres personnes. À quelques heures du démarrage de ces forums, plusieurs personnalités ont été aperçues dans les couloirs de l'archevêché. C'est le cas notamment des personnalités katangaises du monde politique, dont les proches du sénateur Avi Joseph Kabila et ceux du président de Ensemble pour les changements Moïse Katumbi. Présent à l'archevêché de Lubumbashi, un sexagénaire approché nous a fait savoir que les Katangais se sont longtemps rentrés dedans lors de la réconciliation à sonner et de rajouter qu'au cours des 3 jours de travaux, les participants doivent se regarder droit dans les yeux et se dire de vérité, même celles qui fâchent, pourvu que l'objectif tant souhaité soit atteint afin que les générations futures héritent de l'espace Grand Katanga uni dans la diversité. À la question de savoir si Joseph Kabila et Moïse Katumbi seront là ou représentés, cet homme, sans être bavard, nous a répondu simplement, nous citons, « Venez et vous verrez ». Fin de citation. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Jean Gandou reste avec nous pour la poursuite de notre série de reportages sur les discours de haine dans le Grand Katanga. En effet, les motocyclistes sont de plus en plus en vue dans la ville de Lubumbashi. On les retrouve dans toutes les 7 communes de la ville. C'est la mesure de l'autorité urbaine interdisant aux taxis-motos de circuler dans le centre-ville de Lubumbashi qui a déclenché l'escalade des propos allant jusqu'au discours de haine des uns vis-à-vis des autres. Quelle est donc la situation des motocyclistes dans la ville de Lubumbashi?
Les motocyclistes sont regroupés dans 4 associations, à savoir l'ITM 4, SEMCO, AIMCO et ANACO. D'après Henri Mboui, président de l'ANACO, la ville de Lubumbashi compterait plus de 70 000 motocyclistes. Il faut noter qu'à cause de plusieurs abus dont ils sont accusés, notamment les mauvais stationnements, les cas d'accidents et les désordres, leur accès au centre-ville est interdit par l'autorité urbaine de Lubumbashi. C'est à partir de cette interdiction que les tensions ont commencé à monter, car la majeure partie des motocyclistes est constituée des ressortissants de l'espace Grand Kasaï. Ils estiment qu'ils sont interdits de travailler au centre-ville à cause de leur identité ethnique et ils crient à la xénophobie. Faux rétorque ceux de l'espace Grand Katanga qui condamnent le désordre qu'ils occasionnent et leur demandent de se soumettre à la décision de l'autorité urbaine dont ils soutiennent la mesure, tout en indiquant que parmi les motocyclistes, il y a aussi les ressortissants du Grand Katanga. C'est donc cette tension qui prenait de l'ampleur qui a entre autres justifié la convocation par le président de la République de la conférence interprovinciale pour la cohabitation pacifique entre les provinces de l'espace Grand Kasaï ainsi que celles de l'espace Grand Katanga. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, certains acteurs de la société civile de la région de Ndiapanda, dans la chefferie de Bachoara et du secteur de Bapéré, dans le territoire de Lubero, disent être victimes ces derniers jours des menaces des miliciens de l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo UPLC. Ces miliciens reprocheraient à ces acteurs de la société civile le fait d'avoir plusieurs fois alerté les autorités en dénonçant leurs multiples exactions contre les civils. Les victimes appellent à l'intervention des autorités pour leur sécurité. L'un d'eux, dont la voix a été modifiée, témoigne au téléphone de Grâce Amzati.
Je viens de recevoir 4 appels à provenance des dirigeants de ces groupes armés qui nous menacent de nous causer du tort si nous parlons de ce qu'ils commettent dans nos villages respectifs. Et ils nous accusent même d'avoir alerté les autorités, d'en avoir parlé à la radio et que nous risquons fort que nous allons subir leur rigueur. Et vraiment, c'est une insécurité dans laquelle nous nous retrouvons actuellement et on ne sait plus comment se comporter, où vivre, où se cacher face à cette menace dont nous sommes victimes. Et nous demanderons aux autorités compétentes de vite chercher la solution à cette question d'insécurité à notre endroit, mais aussi accélérer les processus là de démobilisation pour que ces groupes armés puissent être éradiqués dans la région.
Contacter l'administrateur du territoire de Lubero qui dit être informé de la situation promet de prendre langue avec le leader de ces groupes armés à ce sujet puisque ce dernier ayant pris part aux consultations de Nairobi. Toutefois, le colonel Alain Kiwewa dit avoir pris des dispositions pour sécuriser les acteurs de la société civile et les appelle à plus de prudence et de vigilance. Dans la province du Maniema, 7 présumés voleurs, dont une femme, ont été présentés au ministre provincial de la Santé, faisant office du gouverneur intérimaire hier lundi. Parmi les biens volés qui ont également été présentés, il y a notamment 11 motos, des matelas, des panneaux solaires, habits et autres biens de valeur. Le commandant de la police de la ville demande l'accompagnement de la justice pour que ces malfrats puissent réellement subir la rigueur de la loi. On écoute le colonel Saïdi Moudjaliwa au micro de Florence Kizalunga.
C'est depuis longtemps que nous travaillons par rapport à ces groupes de malfrats qui opèrent dans la commune de Mikelenge. Et cela en collaboration avec la population. Ils ont érigé leur quartier général dans la commune de Mikelenge, dans le bloc Tokedi. Nous avons mis la main sur eux et nous avons découvert tout un dépôt des biens de la population. Et parmi les gens qui ont été interpellés, nous faisons ce constat. On ne sait pas ce qui se passe. La plupart des gens qui sont en train de troubler la quiétude de la population, ce sont les mêmes gens qui bénéficient de la grâce présidentielle. Là, nous demandons seulement l'accompagnement de la justice pour que la paix puisse régner dans la ville. Parce que lorsque quelqu'un est interpellé, il y a des preuves. On le présente devant l'autorité compétente. Il doit subir la rigueur de la loi. Mais néanmoins, nous trouvons que parfois ces gens-là bénéficient, je ne sais pas quelles mesures, pour qu'ils puissent encore revenir. Et cela nous donne encore une charge de plus de les reprendre, les retrouver, parce que la population est en train de décrier que nous, les autorités, nous ne faisons rien.
L'association du réseau parlementaire africain contre la corruption invite le Parlement congolais à s'impliquer pour accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Au cours d'une évaluation ce lundi de l'évolution de l'examen des instruments juridiques contre la corruption, le président de l'APNAC déplore que la proposition de révision du code pénal traîne toujours dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. Passi Zapamba plaide donc pour un examen et une adoption rapide de ces textes afin de renforcer le mécanisme de sanction des cas de corruption et la lutte contre l'impunité en RDC. Passi Zapamba est au micro de Michel Kifindangoy.
On ne peut pas parler de la lutte contre la corruption si, sur le plan législatif, on ne trouve pas des outils de travail susceptibles à faciliter cette lutte. Or, tout cela découle de la volonté du président de la République d'en finir avec le corrupteur et le corrompu. On interpelle quelqu'un aujourd'hui, on parle de millions, le lendemain on le trouve dans la rue, sans qu'on donne la suite à la population, que sur autant de millions pour lesquels tel individu a été interpellé, voilà l'État congolais a recouvré autant, il reste encore à recouvrer autant.
Et puis, 54e session de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique. Le vice-ministre du plan, Crispin Mbadou, représente la RDC à Dakar, au Sénégal. Cette réunion est organisée par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et le Sénégal sous le thème
financement de la relance de l'Afrique, atteindre de nouveaux horizons. Le président du Sénégal, Macky Sall, a encouragé la pleine opérationnalisation du mécanisme de facilitation du commerce électronique. Pour lui, le financement de nos économies et leur capacité de résister aux chocs extérieurs dépendent aussi de notre aptitude à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons. Autre nouvelle, 3 décès sur les 3 cas confirmés, c'est jusque-là le bilan de la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Elle a été déclarée officiellement depuis le 23 avril dernier par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Mais sur terrain, les équipes de riposte œuvrent efficacement et continuent à mener différentes actions afin de couper la chaîne de transmission. Parmi ces activités, la sensibilisation, Paul Richard Malingela.
Environ 1000 personnes, hommes, femmes et enfants, ont été sensibilisés dimanche dans 5 églises de l'aire de santé Motema Pembe, foyer de l'actuelle épidémie d'Ebola en Mbandaka. Ce travail a été abattu par des équipes de la communication des risques et à l'engagement communautaire, CREC, notamment sur les risques de la maladie à virus Ebola, mais aussi sur l'importance du prélèvement avec enterrement digne et sécurisé, ainsi que sur la vaccination contre la maladie. Entre-temps, l'Association des médias associatifs et communautaires de l'Équateur AMASEC a débuté ce lundi une série de sensibilisations à travers le magazine Tobengana Ebola, entendez, chassons l'Ebola. La production traitera des préoccupations de la population sur l'Ebola et des informations fiables fournies par des experts. Ce projet de 3 mois en partenariat avec l'Internews et l'USAID sera diffusé sur les antennes de Radio Moana, Radio Lobico, Radio Bondeko et la radio-télévision Zoé. Notons que la sensibilisation fait partie des stratégies efficaces de la riposte mises sur pied par les gouvernements national et provincial ainsi que par leurs partenaires dont l'UNICEF. Le temps a d'abord été donné fin avril dernier par le gouverneur de province Bobo Boloko dans un message radiodiffusé où il a annoncé l'existence de la maladie, ses symptômes et les moyens de s'en protéger. Mbandaka, pour Chamanenge, la radio Okapi.
Et puis le président provincial de l'église du Christ au Congo, l'ECC, de la province ecclésiastique de Bandundu, Monseigneur Pierre Mumbambi, a été installé officiellement dimanche dernier par le président national de l'ECC, vous le savez. Dans une interview accordée à Radio Okapi ce lundi 16 mai, il a fait savoir que son église, qui est composée de plusieurs communautés, a un impact positif sur le développement du pays à travers les 3 provinces, à savoir le Kwilu, le Kwango et le Maïndombe. Elle met à la disposition de la population plus de 2000 écoles et 90 structures médicales pour son bien-être. Irène Bouma.
Pour le président provincial de l'ECC de la province ecclésiastique de Bandundu, nouvellement investi à ses postes, l'ECC est un grand partenaire du gouvernement congolais. Elle s'implique dans le développement communautaire du pays en ce qui concerne notamment les domaines éducatifs et sanitaires. Dans l'espace Grand Bandundu, par exemple, cette église possède plusieurs établissements scolaires ainsi que des formations sanitaires pour le bien-être de la population, a déclaré Pierre Mumbambi.
Nous avons un nombre important d'écoles dans les 3 provinces administratives, les Kwilu, les Kwango, les Maïndombe. Nous avons même des hôpitaux, nous avons des centres de santé, nous avons même des écoles de formation de métiers.
Le révérend Pierre Mumbambi appelle la population du Grand Bandundu, surtout les chrétiens, à travailler la main dans la main pour contribuer de plus en plus au développement du pays. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Et puis cette mise en garde du bourgmestre de la commune de Mikelenge dans le cadre de la lutte contre l'impunité dans la province du Maniema. Norbert Kipalamoto Penewa demande à la population de sa juridiction de ne pas jeter les immondices dans la rivière Mikelenge. Ceci, c'est pour les prévenir de différentes maladies. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Pour prévenir ma population contre les différentes maladies, je les demande de ne pas jeter les immondices dans la rivière Mikelenge. Parce que vous-même, vous utilisez cette eau pour se laver. Laver aussi les assiettes et les habits aussi. Maintenant, gardez propre les eaux de cette rivière. Par la même occasion, je demande à ceux-là qui ont des maisons le long des grandes artères de ma commune d'assainir leur parcelle. Je leur accorde un moratoire de 8 jours pour assainir leur parcelle. Celui qui ira à la contre sera puni conformément à la loi. À bon entendeur, Sali, dit-on.
Actualité internationale.
Les autorités de transition du Mali affirment avoir déjoué une tentative de coup d'État dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mai dernier. Un groupuscule d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes soutenus par un État occidental aurait tenté les coups de force ce soir-là, selon un communiqué des autorités maliennes ce lundi 16 mai. Et puis on s'achemine vers le retour d'une présence militaire américaine permanente en Somalie. Le président américain Joe Biden a autorisé ce lundi 16 mai l'envoi de troupes dans le pays d'où les forces américaines s'étaient retirées à la fin du mandat de Donald Trump. Ce sont plusieurs centaines de soldats des forces spéciales qui vont être redéployés en Somalie à partir des pays de la région. Les chiffres exacts n'est pas précisé, mais les New York Times croient savoir que ce sera autour de 450 éléments. Au moment du retrait décidé par Donald Trump, ils étaient environ 700.
L'invité.
17 mai 1997, 17 mai 2022, voilà 25 ans que l'AFDEL de Laurent-Désiré Kabila a renversé du pouvoir le maréchal Mobutu, président du Zaïre. Cette journée est depuis quelques années consacrée aux forces armées congolaises. Notre invité dans cette édition du journal est le professeur Néhémie Moulania, auteur de l'ouvrage « La République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, devoir de mémoire ». L'ancien directeur de cabinet du président honoraire Joseph Kabila s'exprime sur cet ouvrage et rejette les allégations selon lesquelles l'insécurité persistante dans l'est de la RDC aujourd'hui est l'héritage de l'AFDEL. Le professeur Néhémie Moulania est interrogé par Alain Irung et Michel Kifindangoy. Suivez.
Professeur Néhémie Moulania, bonjour.
Bonjour Alain.
Pourquoi ce livre maintenant?
De toutes les façons, c'est un exercice qui devait être fait tôt ou tard. J'imagine même que ça devait devenir une tradition. Lorsque on a été en charge et à la fin du mandat, on a des devoirs de redevabilité. Non seulement rendre compte de ce qui a été fait, mais également poser des balises pour ceux qui viennent. Ça permet de gagner du temps, des ressources, éviter la tentation de la table rase de la part de ceux qui arrivent. Et ça permet aussi de reconstituer la mémoire collective de notre peuple. Et donc, on a voulu jeter ces regards rétrospectifs sur cette période particulière, la gouvernance de notre pays, pour certes éclairer notre peuple, orienter les nouveaux dirigeants, mais en même temps, essayer de prendre du recul pour nous-mêmes, voir ce que nous avons pu accomplir des grands, mais aussi des faiblesses inhérentes à toute œuvre humaine, se remettre donc à l'école et apprendre de nos erreurs.
Cet ouvrage est préfacé par le président honoraire Joseph Kabila. Pourquoi parle-t-il par personne interposée?
Je crois que c'est par souci d'humilité. C'est tout simplement parce que il est souvent difficile de parler de soi-même, d'avoir un regard détaché de sa propre œuvre. Et vous savez, même les évangiles ont été écrits par les disciples, pas par le Seigneur lui-même. C'est ce qu'il a fait, lui aussi. Il a été curieux de savoir quel est le regard que d'autres pouvaient avoir sur son œuvre, mais évidemment des observateurs avertis et quelque part aussi des acteurs en même temps qui ont mis la main à la pâte. Cela lui aura permis sans doute d'apporter personnellement quelques précisions les jours à venir, pourquoi pas.
Dans l'ouvrage, vous démontrez combien le président Kabila a fait des efforts en ce qui concerne les groupes armés, notamment dans l'est de la RDC, qui se multiplient, qui naissent au jour le jour. Qu'est-ce que vous répondez à d'autres détracteurs du président Kabila qui pensent que tous ces groupes armés sont pratiquement le résultat de l'AFDEL?
S'agissant du volet sécuritaire, c'est un des volets qui a mobilisé toutes les énergies de ces jeunes présidents. En 96, c'est une révolution qui a été menée et je crois que cette révolution était tractée par l'AFDEL qui était une association certes composite avec le soutien de certaines puissances régionales. Mais rappelez-vous, en 1998, n'est-ce pas, Zé a sonné la fin de la récréation et il avait clairement demandé aux forces invitées de pouvoir rentrer chez elles. Et depuis lors, n'est-ce pas, ces forces avaient décidé de mener une véritable guerre d'agression contre ces pays. Les groupes armés qui, à ce moment-là, s'étaient formés, c'était plutôt des groupes nationalistes, notamment ceux-là qu'on appelait les Maïmaï, et qui étaient des supplétifs de l'armée nationale pour barrer la route à cette agression qui était évidente sur le territoire national. Ceci dit, au fur et à mesure de la normalisation de la vie politique, notamment à travers l'accord de San City, rappelez-vous, tous les groupes armés qui étaient actifs aux côtés du gouvernement étaient représentés à San City comme entité et toutes les rébellions étaient représentées à part entière comme composantes. En signant l'accord global et inclusif, ils ont été impliqués, n'est-ce pas, dans la transition. Et tout le reste, c'était des forces résiduelles qui ont été combattues par le pouvoir central, de telle sorte que lorsque on quittait les affaires, n'est-ce pas, de plus de 200 groupes armés, il n'en restait que des forces résiduelles de moins de 40 groupes armés, contrairement à tout ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc je pense quand même que vous avez découvert, même dans cet ouvrage, n'est-ce pas, pratiquement toutes les zones opérationnelles qui ont été créées et des résultats tangibles.
Professeur Néhémy Moulania, merci.
Notez que le professeur Néhémy Moulania sera l'invité de l'émission Grande Interview samedi 21 et dimanche 22 mai prochain à 10h05 de Kinshasa. Fin de cette édition, mise en onde par Dieudonné Nyangassa, coordonnée et supervisée par Alain Irung. Merci à vous pour votre particulière attention.